something curious about this broadcast.
Audition libre.
Audition libre.
Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier.
Bénédicte Soula.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro d'Audition Libre avant les fêtes avec toute l'équipe prête à vous chanter Jingle Bells. Hein. Mathieu Arnal, bonjour.
Bonjour.
Alors vous
jingle
allez
fêter... Bells, Jingle Bells.
Jingle all the way. Vous allez fêter Noël en famille, alors vous, dans le Lot ?
Dans le Lot et dans l'Allier.
Très bien. Pierre Estournel, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Hein. Vous avez décoré le sapin, vous, je suis sûr.
Oh là là, on a le temps.
On a le temps, ah bon. Bonjour également à Anna Van Rien, qui à la fin de l'émission nous présentera son agenda de l'Avent. Bonjour Anna.
Oui, bonjour à tous.
Et pour bien finir l'année. Et un salut également à Grégoire, notre Père Noël à nous, qui réalise avec ses petits lutins cette émission. Voilà, voilà. Alors notre invité lui vous aide également à passer de bonnes fêtes, puisqu'à partir de demain et jusqu'au dernier jour de 2018, il vous propose de redécouvrir un ballet qu'il a chorégraphié en 2017 avec le ballet du Capitole. Mais là, dans une version, je crois, un peu remaniée, il va nous l'expliquer. Lui, c'est Kader Belarbi, le directeur de la danse au Théâtre du Capitole. Et le ballet en question, c'est Don Quichotte. Bonjour, Kader.
Bonjour, moi je fête en famille avec les Toulousains.
Ah, bah, très bien. Alors, je suis désolée, mais il n'y a pas d'exception de Noël, de trêve de confiseur ici, à quelques jours des fêtes maintenant. Vous devez quand même, Kader Belarbi, comparaître en audition libre.
Audition libre, interview, Mathieu Arnal.
Oui, donc après Casse-Noisette l'an passé à la même période, Kader Belarbi, vous reprenez Don Quichotte, donc cet autre grand classique du répertoire. Vous l'aviez vu, hein, je crois, avec votre fille, n'est-ce pas, Bénédicte ?
Oui, je l'ai vu il y a 2 ans déjà.
Deux ans, c'est ça.
Oui, et elle avait beaucoup aimé le Sancho Panza.
Laurel et Hardy.
Un peu, voilà.
Et oui, Don Quichotte et Sancho,
vu,
bien sûr.
Voilà.
Alors pour commencer, hein, première question, rappelez-nous en quelques mots l'histoire de ce ballet de Marius Petipa, inspiré évidemment du célébrissime roman de Miguel de Cervantes.
Alors Marius Petipa, déjà, c'est un Français qui s'est exilé en Russie.
Un Marseillais.
Un Marseillais en plus.
Cher. Hein,
et c'est 200 ans déjà, puisqu'il est né en 1818. Ensuite, la création de Don Quichotte date du 14 décembre 1869, donc 149 ans. Nous sommes voilà le 17 décembre. Et donc, l'histoire de Don Quichotte, elle est énorme quand on regarde ce qu'a écrit Cervantes. C'est des milliers de pages, ça date de 1605-1615, les deux tomes. Et donc, c'en est vraiment qu'un bref épisode, je dirais, pour le ballet. Mais nous avons les personnages comme Don Quichotte, qui est ce vieux fou, ridicule, chevalier errant qui parcourt le monde entier pour trouver sa belle Dulcinée. Donc, c'est une quête, véritablement. Tout ça d'après ses livres de chevalerie. Il est accompagné de son ventru, on va dire, écuyer Sancho Panza. Il y a bien sûr l'intrigue amoureuse avec Kitri et Basilio. Moi, j'ai un peu changé, parce que le Basilio, dans les versions anciennes, est plutôt un barbier. Et moi, j'ai décidé que ce soit le plus beau toréador du monde entier. Donc, j'ai rendu un peu plus consistant aussi l'histoire. J'ai enlevé Gamache, qui était un peu un clown dans l'histoire traditionnelle du ballet. Et j'ai mis ce Gamache à l'intérieur de Don Quichotte, qui peut être aussi, lui, ce petit clown ridicule à l'intérieur et qui peut nous toucher véritablement. Il y a évidemment Mercedes et Esteban, que j'ai rajouté, qui sont les amis.
Voilà, le couple de gitans.
Le couple de gitans, qui fait qu'on peut vraiment rentrer dans ce sextuor et raconter toute cette histoire qui démarre évidemment avec les grands fantasmagories de monsieur Don Quichotte, accompagné de son Sancho Panza, qui a décidé de partir à la quête de ses amours. Et donc il rencontre sur une place du village Kitri, qui est une très belle, on va dire presque gitane, mais qui, elle, est amoureuse de Basilio. Et à ce moment-là, il y a confusion, évidemment, avec Don Quichotte. Et tout se passe dans le marais ensuite. J'ai enlevé aussi cette histoire des dryades, moi, c'est des naïades, parce que j'ai considéré que Don Quichotte pouvait aussi peut-être fumer du prologue au troisième acte. Donc on le voit vraiment dans ce brouillard qu'il a lui-même inventé. Et il poursuit sa quitterie, parce que ce Basilio, finalement, devient un rival absolu. Il ne gagnera pas, puisque c'est les amours de Kitri et Basilio qui gagneront à la fin dans un vrai mariage sur la place du village. Mais il n'empêche que ce Don Quichotte poursuivra les routes sur les traces de sa Dulcinée qu'il ne rencontrera peut-être jamais.
Alors là, tu n'avais pas envie.
Ouais, oui, c'est sûr. Alors justement, vous venez de l'évoquer plus ou moins, cette version, donc ce ballet foisonnant avec de nombreux petits rôles, vous avez resserré le nombre de personnages. Combien de personnages et de danseurs déjà sur la scène? Parce qu'il y a, je crois, une trentaine.
Voilà, c'est ça. La compagnie est de 35 danseurs. Mmh. Là, nous sommes absolument tous les danseurs en scène. Il y a bien sûr deux distributions. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a aussi les étoiles, puisque c'est un nouveau libellé qui apparaît au Théâtre du Capitole, donc pour le ballet du Capitole. Donc il y aura deux distributions de deux couples d'étoiles sur scène, pour Kitri et Basilio. Il y aura double distribution pour tous les autres grands rôles, donc de Don Quichotte, de Sancho Panza, de Mercedes, d'Esteban, mais aussi les deux amis qui accompagnent tout le temps Kitri et Basilio. Et puis il y a cette foisonnante, je dirais, foule, avec toutes ces danses qui sont ces guidillas, muletas, ces apateados, ces boleras, qui viennent en scène faire fleurir et colorer et chamarrer, je dirais, toute cette histoire sur la musique de Minkus.
Alors justement, on est sur la double distribution. J'ai lu que vous prépariez vos danseurs comme des purs sangs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ça?
Ah bon, vous avez lu ça où?
Ben, vous savez, c'est toujours l'histoire aussi. Moi, j'aime beaucoup la tradition, le patrimoine. Oui. Mais en même temps, je parlais tout à l'heure de 1869. Il est important de savoir comment on peut remettre au goût du jour et réactualiser aussi, pas simplement les pas existants de l'époque, mais aussi l'incarnation véritable de ces danseurs. Et aujourd'hui, la technique est beaucoup plus pointue. Je dirais presque plus acrobatique, plus précise. Mais qu'au-delà de ça, si c'est simplement pour faire une démonstration d'une mécanique, ce n'est pas intéressant. Nous racontons aussi une histoire. Et donc, le danseur doit se charger absolument de cette incarnation pour trouver une authenticité du geste naturel et de donner le sentiment, le ressenti des émotions et de l'intrigue qui peut intervenir. Éviter d'être dans l'illustratif, c'est-à-dire ne pas plaquer pour l'extérieur des gestes qui seraient simplement du mimodrame. Mais comment, avec une certaine finesse, finalement, faire transpirer avec le corps dansant le sentiment, l'émotion, et en étant très très juste aussi techniquement. Et on va dire que Don Quichotte demande vraiment une technique très brillante pour pratiquement tous les personnages, sauf Don Quichotte, malgré que je le fais danser aussi, puisque les anciennes versions de Don Quichotte, il n'est qu'une vitrine, et moi ça ne m'intéressait pas, qu'il n'ait pas cette existence et cette présence en scène. Donc je le fais danser véritablement avec sa dulcinée, il est chahuté aussi par les autres, et au moins il a une existence propre sur scène. Donc c'est toute cette conjonction, je dirais, d'un personnage comédien dansant avec une véritable technique.
Vous avez, je crois, également ajouté de nouvelles compositions et transcriptions du livret de Ludwig Minkus et agencé certaines séquences. Comment ça s'est passé?
Je suis retourné, vous savez, ce ballet a été créé en Russie. C'est tout le moment de l'exotisme. On était sur les Indes avec la Bayadère, mais on était aussi sur l'Espagne, donc avec Don Quichotte, donc en 1869, au 19e siècle. Et pour moi, il était important, je repars toujours sur la partition entière d'un compositeur, que ce soit Tchaïkovski, là en l'occurrence c'est Minkus, et je me suis aperçu que dans tous les standards de Don Quichotte, il y avait parfois des coupures ou des volontés de laisser de côté certaines partitions. Et je me suis beaucoup interrogé sur l'authenticité des danses et d'éviter peut-être ce qu'on appelle les espagnolades. C'est-à-dire qu'il fallait trouver véritablement, à travers la musique, cette coloration, bien sûr que je dirais presque hispanique, mais en même temps, en chorégraphiant, retourner à la vérité, on va dire, de certains pas. Je parlais tout à l'heure des boleras, des seguidillas, des muletas, etc. Et sur cette deuxième version, j'ai demandé, par exemple, à Antonio Narrajo, qui est un très grand danseur de flamenco en Espagne, c'est une star, il est le directeur du Ballet National d'Espagne. Moi, bien sûr que j'ai parcouru à travers ma carrière de danseur et de chorégraphe différentes rencontres, je dirais hispaniques, que j'ai un ressenti, mais je n'ai pas ça dans mes gènes. Donc je lui ai demandé de venir finalement me donner un coup de sang véritable avec ce ressenti espagnol, et on a passé plusieurs journées avec le ballet du Capitole. Il s'est mis avec une robe rose, un éventail, il a commencé face aux filles à leur montrer ce que ça voulait dire de manier avec le poignet et l'éventail, comment on tenait une jupe, parce que sinon c'est un peu n'importe quoi. Alors, il suffit de chahuter la jupe et on se croit espagnol. Voilà ce genre de choses. Mais pour les garçons, c'est pareil, de prendre une muleta et de savoir comment la cape, on la prend face au taureau ou face à son partenaire ou ses partenaires. Et c'est pareil, comment on devient matador finalement en retenant les choses et en évitant de les jeter à la gueule du public, par exemple, comme un toréador qui retient au moment où ça doit sortir, il faut contenir. Voilà, et ce ressenti avec des fondamentaux qu'on a pris avec quelques classes, etc., ça a été fabuleux pour l'inscrire véritablement dans le choix musical que j'avais fait de Minkus, parce que j'ai fait des trouvailles vraiment qui sont des colorations qui sont totalement hispaniques musicalement. Et ça, ça m'a vraiment intéressé de retrouver finalement sans arrêt une authenticité dans la chorégraphie, dans la musicalité, mais aussi dans la manière de le dire physiquement et techniquement.
Parfait. Je suis bluffé là, j'ai rien à dire.
Olé.
On poursuit dans la saison 2018-2019 avec vous, Bénédicte.
Oui, moi je voudrais profiter de la présence de Kader Bellarbi et puis du fait qu'il n'y ait pas de critique cette semaine. Hein. Finalement, il y avait une trêve des confiseurs aussi, voilà. À Audition Libre. On calme un peu les choses. Donc je voudrais profiter de la présence de Kader Bellarbi pour qu'on aille un petit peu plus loin dans la programmation. Avec du 13 au 15 mars au Théâtre de la Cité, un programme Marin Soto Bellarbi autour de la figure de Maggie Marin. Alors, il s'agit de 4 pièces courtes qui décryptent les liens qui se tissent, se nouent ou se dénouent entre les êtres. Un mot sur ce programme-là.
Alors, déjà, c'est la rencontre avec Galine Stoef. Moi, je suis très heureux d'avoir une entente avec lui. C'est une première, un baptême aussi.
Pour Galine Stoef, qui est le nouveau directeur du Théâtre de la Cité. Voilà.
Et c'est important, dans ce baptême, de se dire que le ballet peut se déplacer aussi dans d'autres lieux à Toulouse. Et donc, c'est une première. Mais bien sûr, c'est lié aussi avec quelqu'un que je connais depuis une trentaine d'années, Maggie Marin. Et Maggie Marin, au départ, ça devait être une création. Donc, je suis tout triste parce que j'aurais souhaité cette création, évidemment, comme première ici à Toulouse. Elle était très encombrée. On peut la comprendre avec plusieurs créations en même temps. Donc, elle a fait un choix. Il n'empêche qu'elle est présente puisque Galine Stoef a souhaité qu'elle soit un portrait paysage, donc un fil conducteur sur toute la saison toulousaine au Théâtre de la Cité. Donc je rentre et je m'inscris avec le Ballet du Capitole dans ce portrait paysage. Donc autour de la figure de Maggie Marin, nous avions deux ballets dans le répertoire qui étaient Eden et Grossland. Et je me suis posé la question quelle thématique je pouvais trouver. Vous l'avez cité tout à l'heure sur l'histoire du lien. Il y a une histoire d'expressivité finalement dans le travail de Maggie Marin sur les corps qui sont parfois masqués ou qui sont transformés. Et j'ai souhaité faire une reprise aussi avec Liane Tal, qui est l'une de mes pièces que j'avais donnée avant d'être directeur ici à Toulouse en 2010. C'est sur le quatuor numéro 8, opus 110 de Shostakovich, qui vraiment, lui, a une expressivité véritable. Et j'ai voulu travailler sur une sorte de, je vais schématiser en disant, un cannibalisme de théâtre familial entre un père, une mère, un fils et une fille autour d'une table. Il n'y a que ça en présence. Et je trouvais qu'il y avait ce lien familial, comme on peut avoir le lien originel dans Eden, puisqu'il s'agit d'un couple qui, pendant 13 minutes, la fille est comme une liane sur un arbre. Cet arbre est un homme qui se déplace mouvant sous la pluie et l'orage, et elle ne descend jamais de terre. C'est un pas de deux, on appelle ça un duo absolument formidable d'un body contact, comme ça, dont un corps à corps. Et Grossland, sur des concertos brandebourgeois de Bach, nous avons des corps hypertrophiques, c'est 10 hommes, 10 femmes, qui rebondissent véritablement. Donc c'est tout le regard amusé encore, et je dirais tendre, de Maggie Marin, mais qui est toujours aussi ce regard très aiguisé sur le corps, qui est vraiment le médium qu'elle utilise pour toutes ses pièces. Et pour terminer, j'ai souhaité aussi faire une entrée au répertoire d'un jeune chorégraphe espagnol. Et c'est une entrée répertoire du nom de Fugaz sur une partition piano et violon de Gurdjieff. Et là, nous sommes aussi dans un lien qui est plutôt paternel. Donc je laisserai la découverte de cela parce qu'il y a une forme d'intimité véritable sur un papa finalement qui est décédé. Et on a 4 dames qui représentent sans doute le symbole féminin avec 2 messieurs autour et qui, dans une grande sensibilité sur cette musique de Gurdjieff, délivrent un message sur peut-être la maladie et la mort.
D'accord. Et là, il y a 2 pièces, alors, ce chorégraphe-là.
Non, il y a une seule pièce, Fugaz. Lien de table, qui est l'une de mes pièces, Eden de Maggie Marin, Grossland de Maggie Marin, qui font 4 pièces.
Très bien, parfait. Alors, autre reprise, on avance un petit peu encore, là ça sera en avril, celle de La Belle et la Bête, cette fois-ci sur la scène du Capitole. Alors,
la Bête et la Belle.
On va inverser le titre.
Qu'est-ce que j'ai dit?
La Belle et la Bête.
Non,
c'est pas grave.
La Belle et la Bête. Je sais pas qui m'a fait les notes. Mais...
Elle est bonne celle-là.
Oui.
Donc La Belle et la Bête, cette fois-ci sur la scène du Capitole, adaptée du célèbre conte de Madame le Prince de Beaumont. Et là c'est bon. Là c'est une invitation donc à l'enchantement à travers un chemin initiatique, n'est-ce pas?
Alors moi c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que j'ai eu la chance finalement de demander à Giorgi Ligeti, juste avant qu'il ne disparaisse, la possibilité de travailler sur son œuvre. Et c'est rare qu'un compositeur contemporain, vivant, accepte qu'on puisse piocher et de trouver une dramaturgie musicale avec sa musique. Ça a été un grand moment. Donc la trame musicale est principalement celle de Giorgi Ligeti. Et il est vrai que je pourrais dire que La Bête et la Belle, c'est l'inversion du titre. On pourrait se dire où sont les bêtes internes ou externes. C'est un parcours sans doute initiatique d'une belle qui, je dirais pas qu'il y a deux parties, il y a deux rêves. Un premier où ce sont les bêtes externes qui parlent dans cette première partie. Et la deuxième partie, ce deuxième rêve, c'est une chasse à cours. Donc je me suis amusé à confronter la belle avec la ou les bêtes, qu'elle soit celle qu'elle a en elle-même, donc tous ces fantasmes, avec cette évolution, on va dire, c'est peut-être une carte du tendre aussi, je ne sais pas, avec elle. Et puis au-delà de ça, avec celles qui sont extérieures. Donc toutes les propositions, je ne souhaite pas l'équivoque. C'est vrai que l'union n'est pas possible à la fin, mais c'est la question qui est posée et chacun pourra trouver son identification avec ce ballet.
Très bien. Alors, vous avez ouvert la saison avec Rudolf Nureyev, on s'en souvient. Hein. Vous la fermez avec un autre géant russe du XXe siècle. Alors, je vais essayer de dire Vassislav, c'est bon ?
Vassislav
Nijinsky. Hommage, donc, il lui est rendu du 19 au 23 juin à la Halle au Grain avec le spectacle Nijinsky, le clown de Dieu. Et on finira donc avec ça, Kader Bellarbi.
Alors, pour moi, c'était important. Voilà, je crois que Nijinsky fait partie de ces génies créateurs. C'est lui qui a... transformer, moderniser les ballets russes, avec d'ailleurs sa propre chorégraphie du Sacre du Printemps. On sait le scandale qu'il y a eu aussi avec le spectre, l'après-midi d'un faune, pardon. Mmh. Et je trouvais important de finir avec une autre figure tutélaire comme ça. Nijinsky, c'est un peu une soirée relooding, je dirais, dans le sens où il y a l'entrée au répertoire de John Neumeyer, qui est un des plus grands chorégraphes actuels, qui est le directeur du Hambourg Ballet, qui vient présenter une pièce qui s'appelle Vassislav, où nous aurons finalement tous les états de ce Nijinsky sur les suites françaises de Bach, avec quatre couples derrière, avec une variation plus ou moins contemporaine qui peut être dansée par un homme ou par une femme. Et on a là tout le suivi finalement de ce personnage Nijinsky pendant toute ce ballet. Ensuite, j'ai demandé à David Dawson, qui est un chorégraphe contemporain à l'international, qui travaille beaucoup au Het National Ballet à Amsterdam, de faire une version, masculine et féminine. Donc là, nous sommes absolument dans le sujet de l'après-midi d'un faune. D'ailleurs, le titre s'appelle « Faune ». Il y aura deux garçons ou deux filles. C'est une histoire de réversibilité. Nous sommes dans l'érotisme plein. Et ce sera cette relation entre deux hommes ou deux femmes à travers ce sujet de l'après-midi d'un faune. On suivra le spectre de la rose avec Michel Kaleminis, qui est un chorégraphe contemporain marseillais, qui a fait aussi toute une notion sur l'évanescence, finalement, de cette rose qui est dansée par un homme. Donc là, on est aussi sur cette sensibilité, cet érotisme. Où va-t-il? Comment il se transpire? Comment il s'infuse, finalement, avec sans doute des pétales de rose qui vont s'envoler sur scène? Et nous allons finir par une création. Ça faisait 4 ans que j'attendais que Stijn Selys, qui était venu sur la première soirée que j'avais faite ici en 2012, où il avait créé Les Noces de Stravinsky. Là, ce sera Petrouchka.
D'accord.
Et donc, je peux simplement dévoiler qu'il a décidé de travailler sur la masse, de ne pas rentrer dans une chose illustrative du Petrouchka, qui est cette marionnette mythique foraine, on va dire russe. Il a décidé de mettre tous ses danseurs en catcheurs mexicains avec des masques. Donc, il va travailler sur le corps masqué encore. Et il faut dire que cette soirée aussi, j'aime beaucoup cette idée que dès qu'on puisse, on puisse travailler en live. Elle sera accompagnée au piano. et aussi avec une mezzo-soprano. Donc nous aurons pour débuter le Václav avec un piano, nous aurons ensuite l'après-midi d'un faune, deux pianos, le spectre de la rose, piano, mezzo-soprano, et nous aurons pour terminer les deux pianos pour la version de Petrushka.
Ben parfait. Vous n'avez pas cité le terme de genre, mais je crois qu'il y a aussi cette question-là, notamment dans, dans l'après-midi d'un faune.
Merci, merci Kader Bellarbi. Donc on rappelle, Don Quichotte,
hein,
du 21 au 31 décembre au Théâtre du Capitole. Autre temps fort, mais dans le rétroviseur cette fois-ci. Pierre, pour cette dernière audition libre de 2018, vous avez choisi quelques-uns de vos coups de cœur de l'année écoulée.
Effectivement, vous savez, le choix n'a pas été simple. Mon premier coup de cœur, et je pense, Bénédicte, que vous en gardez un souvenir très précis, c'était tout à la fois drôle et émouvant, et Mathieu, exceptionnellement, n'était pas parmi nous. C'était en juin dernier, lorsque nous avions reçu Fabrizio Rosselli.
Ah oui, très
voilà, pour son spectacle Bakeke, une prestation d'équilibriste drôlatique, effectuée sur des sauts dans lesquels Fabrizio marche, grimpe, tombe parfois, sans le vouloir, hein, rappelons-le, mais aussi un clin d'œil à ceux qui l'appellent ses amis. Ce sont les pensionnaires des hôpitaux psychiatriques et les autistes qui tentent d'accomplir des travaux sans trêve ni repos. On se replace dans le contexte.
C'était le circassien qui jouait avec les sceaux.
Il jouait avec les sceaux et il rate son coup. C'est-à-dire qu'il a édifié une véritable muraille avec des sceaux qu'il tente d'escalader et n'y parvient pas. Il s'écroule sur scène. Ça, c'était l'imprévu total. Mon second coup de cœur, c'était beaucoup plus récent puisque je l'ai vu au Ring le 5 décembre dernier. Il s'agit de la pièce Shishigami, écrite et mise en scène par Céline Astrier, avec la compagnie Nananaki, en toile de fond, les luttes des militants écologiques pour préserver des sites tels que Sivens ou Notre-Dame-des-Landes, mais aussi l'amitié, le pouvoir de l'argent et le regard que l'on porte sur ces questions politiques. Il y avait vraiment, à mon avis, à mon sens, quatre points très très forts et très positifs dans cette pièce. On en écoute un extrait.
J'ai pas envie de devenir le fantôme de mes parents. Chaque génération qui s'ouvre ouvre quelque chose qui n'est jamais semblable à ce qu'a tracé la génération précédente.
Oui, enfin bon, il n'y a pas simplement le poids des parents et d'un héritage culturel, il y a aussi celui d'un pouvoir qui est bien concret, bien réel et qui s'exerce sur nos vies, sur nos imaginaires. Par exemple, l'argent. Bien, le top dans notre société, c'est qu'on a réussi à nous convaincre qu'il pouvait se multiplier de lui-même, comme dans l'épisode de la multiplication des pains, avec son pendant, le tonneau des Danaï et de la dette.
C'est bien le problème majeur auquel on est confronté, ça. L'épouvantail de la dette, ça, c'est probablement efficace.
Eh oui, alors ça, c'était l'échange entre Pierre, ce personnage du professeur qui a une cinquantaine d'années, qui se sait condamné par un grave problème cardiaque.
Pierre, 50 ans ?
Et son ancien... son ancien élève Quentin, qu'il retrouve comme ça au hasard des rencontres, et qui est lui, qui endosse le rôle de l'activiste, le jeune militant écolo, qui va malheureusement perdre la vie dans ce drame, hein, qui est en fait le drame de Sivens, puisque Céline Astrier vit juste à côté du village de Sivens, en fait, voilà. Mon troisième coup de cœur, je l'ai eu au Grand Rond en assistant à Folie Ordinaire avec la compagnie Monde à Part. Et sur scène, nous avions Frédéric David, qui était le seul acteur, mais qui était magnifiquement accompagné par un complice à lui, qui est un guitariste, Jeff Manuel. Son propos, c'est d'évoquer une enfance douloureuse et difficile qui était la sienne. Très belle écriture, magnifique écriture, une prestation étonnante de Frédéric David quand il évoque son enfance avec énormément d'émotions, mais aussi une étonnante galerie de portraits des personnages qu'il a côtoyés, qui sont des personnages qu'on croirait issus d'un tableau de Bruegel ou de Jérôme Bosch. On écoute un extrait de cette pièce.
J'étais orphelin et je devenais bègue. L'orthophoniste, elle m'a dit, Frédéric, on va rejouer encore une fois toute l'histoire. Vous, à 8 ans, et moi, votre institutrice, Mademoiselle Martin. Elle s'est approchée de moi. Et elle a répété la fameuse phrase. Frédéric, c'est pourtant pas compliqué pour toi. Un mot que tu aurais pu trouver, c'est orphelin. Ton père est décédé, tu es maintenant orphelin de père. Répète après moi. Or. Répète après moi. Et puis elle a fait exactement comme Mademoiselle Martin, sur une note de plus en plus aiguë. Elle insistait. Orphelin. C'est pas si compliqué. Orphelin. Mais moi, je n'y arrivais pas. C'était bloqué là, dans ma gorge. Et puis tout d'un coup, paf, ça y était.
Alors, c'était Folie Ordinaire avec la compagnie Monde à Part et Frédéric David. Dernier coup de cœur, alors j'ai choisi, et vous allez pouvoir le revoir, Nu sous terre au Théâtre de Poche, par la compagnie Théâtre Extensible, avec un texte signé Christelle Larouille et une mise en scène de Jérôme Jalabert. Je crois que vous l'aviez vu, Mathieu, hein,
absolument.
Il me semble. Hein.
Mmh.
Sur scène, nous retrouvions Christelle Larouille et Gilles Lacoste, ce dernier interprétant Federico Garcia Lorca, vivant ses dernières heures, finalement, puisqu'il avait été enfermé près de Grenade dans une cave par les franquistes qui n'avaient qu'une idée en tête, c'était de le fusiller au petit matin. La pièce sera redonnée du 20 au 23 février au Théâtre de Poche, mais aussi le 23 mars au Musée de la Mémoire de Portet-sur-Garonne, où vous irez certainement, Bénédicte.
Ah,
il faut le savoir, il faut vraiment qu'on se le note.
Je
vous propose d'écouter Christelle Larouille qui m'avait confié à l'époque quelques impressions d'après-scène.
Je me suis posé la question pendant des jours et des jours, à savoir qu'est-ce qu'on ressent justement quand on va mourir. Et c'est très compliqué de se poser cette question-là quand le fait n'est pas là pour vraiment réellement se la poser. Moi, j'aime à croire que dans les derniers instants, ou en tout cas dans les instants les plus sombres, peut-être dans là où l'être humain est le plus anéanti, il reste encore de la poésie. Parler d'un poète, un poète qui va mourir, allons-y dans la poésie alors. Une poésie peut-être plus crue, plus violente à certains moments, parce qu'il faut parler de ces tripes qui doivent certainement faire mal, s'étirer. Et j'ai essayé d'étirer les mots comme les nerfs de Lorca à ce moment-là. Et la réponse, s'il y en a une, parce que par contre, tout ce qui est dit quasiment est vrai, sauf comment il a réellement vécu ces moments-là, ça je ne peux pas le dire puisque nous n'en avons aucune trace et on ne sait plus à imaginer qu'il serait en paix avec lui-même au moment de partir, parce que c'était trop dur sinon.
Voilà, c'était Christelle Larouille avec un magnifique Gilles Lacoste sur scène pour Nu sous terre. Cette pièce est donc redonnée du 20 au 23 février au Théâtre de Poche ainsi que le samedi 23 mars au Musée de la Mémoire de Portet-sur-Garonne et ça sera tout.
Merci Pierre. Donc là, on avait fait un petit retour hein, sur vos coups de cœur sur toute une saison. Mais il y a plein d'autres choses très sympas qui nous attendent. La preuve avec l'agenda d'Anna.
Alors, je commence avec Les Affaires sont les Affaires, qui est joué à l'Escale de Tournefeuille pendant une grande partie du mois de décembre. Une pièce mise en scène par Stéphane Battle et interprétée par la compagnie du Grenier de Toulouse. Une représentation qui a eu tant de succès que son titre est presque devenu un proverbe. Alors, en quelques mots, Isidore Le Chat est à la tête d'une grande fortune et est prêt à tout pour s'enrichir davantage. Un homme d'affaires obsédé par l'argent, soit l'incarnation visionnaire du capitalisme. Alors si vous voulez éclater de rire tout en frissonnant de peur, c'est le spectacle qu'il vous faut, c'est jusqu'au 31 décembre à l'Escale à 20h30. Je continue avec Étymologie des contrariétés au théâtre du Grand Rond depuis mardi déjà, une pièce écrite, mise en scène et interprétée par Jean-Marc Tuillier. Cette représentation est en fait une causerie où le loufoque se dispute avec l'élégance du mot et qui est consacrée à tout ce qui donne envie de se taper la tête contre un mur. Couinement, grincement, insomnie, perte de mémoire, sans oublier le côté farfelu où le comédien vous parlera des origines du cassoulet par exemple ou encore la légèreté d'une espadrille.
La légèreté du cassoulet.
Quel programme.
Un moment donc de pure jubilation que vous pouvez retrouver jusqu'au 29 décembre au Grand Rond à 21h. Et pour terminer, vous vous souvenez peut-être mieux que moi de l'émission de télévision au théâtre ce soir.
Oui, surtout
Pierre Tournelle. On n'est pas si âgés. Merci Anna.
Cette émission qui diffusait des pièces de boulevard a aujourd'hui un répertoire célèbre dans le monde du théâtre, notamment la Perruche et le Poulet, joués justement à partir de demain au théâtre du Pavé, une représentation mise en scène par Francis Azéma et interprétée par la troupe du Pavé en elle-même. Alors elle mêle rire, intrigue policière, mais aussi bien évidemment un peu d'amour et de tromperie, la recette inévitable pour un méli-mélo irrésistible. Alors n'attendez plus, c'est à partir de demain et jusqu'au 31 décembre au Théâtre du Pavé à 20h30.
Eh bien, merci, Connect G. C'est à vous.
À vous les studios.
À vous les studios. Je crois que c'est l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup à Kader Bellarbi. Et puis bonne fête à tous,
ah
alors.
Oui, on va ouvrir les paquets maintenant.
À bientôt. Joyeux Noël.
Joyeux Noël. Bonne année.
Joyeux Noël. Bonne année.